Je pense que nous allons en finir, si vous permettez, avec la béatitude des affligés que nous avons largement couverte depuis quelque temps. Je vous propose donc de nous faire peut-être une espèce de petit résumé de la très grande question.
Oui, et toujours dans l'optique d'un chemin de bonheur, parce que être affligé, finalement, est un chemin de bonheur, mais à condition d'aller chercher en nous-mêmes un amour qui va être capable de nous faire passer à travers l'aspect purificateur, éducateur et libérateur de cette qu'est cette béatitude. Autrement dit, d'être guéri de nos blessures les plus profondes par un amour qui a été déposé en nous et que nous avons à aller chercher grâce à cette épreuve immense. Autrement dit, sans ces épreuves, peut-être que nous n'aurions pas été vérifier en nous la puissance de ces amours qui ont été déposés en nous-mêmes. Alors encore une fois, je reviens au Christ qui est le grand thérapeute ou l'agapé thérapeute, qui est Dieu lui-même, qui s'est fait miséricorde pour nous, c'est-à-dire capable de prendre sur lui toutes nos blessures et qu'en allant en lui découvrir nos propres blessures et les associer d'abord aux siennes et puis finalement découvrir que les siennes sont les nôtres, à ce moment-là, ça nous guérit, ça nous sort de notre marasme, de nos blessures, ça tue l'aspect destructeur d'une souffrance et d'un malheur et finalement, on en sort grandi. Alors, cette béatitude requiert donc, premièrement, que nous sommes affligés d'un mal profond, une épreuve, soit un péché que nous ayons fait, soit quelqu'un qui en ait fait avec nous ou qui en a fait un sur nous, et que finalement, nous allons plus profond que cette blessure pour découvrir un amour plus grand. Et c'est grâce à cet amour plus grand qui est en nous que nous allons chercher, où nous allons puiser, que nous allons passer à travers cette blessure et devenir plus forts, c'est-à-dire éduqués, renforcés dans nos forces, parce qu'ayant eu à combattre des obstacles, et finalement même être capable d'en libérer un autre, le cas échéant. Et tous nous avons à vivre cette guérison de blessures d'amour, et notre puissance de péché vient justement de ces frustrations que nous avons eues dans nos expériences amoureuses. Alors c'est par une expérience amoureuse plus parfaite ou parfaite que nous pouvons arriver à guérir nos expériences imparfaites. Et l'expérience parfaite, c'est évidemment le Christ sur la croix qui nous montre comment son amour était grand pour nous. Et là, je rappelle encore un livre, par exemple, de Delin, L-Y-2-N, Delin, qui est un jésuite et qui a écrit un livre sur guérison de nos blessures aux éditions Bellarmine. Et ce livre-là nous montre, en s'assoyant avec le Christ comme thérapeute, et en lui racontant nos malheurs, et en méditant les mystères du Christ, qui sont tous des mystères d'amour pour nous, et finalement nous allons chercher en nous ce grand amour de Dieu qui est infini, et qui nous permet de passer à travers toutes les blessures humaines, et de vivre une joie constante. Ce qui est plus profond que ça, que la guérison de nos blessures et de l'engendrement des ministères qui en découlent, ce qui est plus profond que ça, c'est la béatitude de miséricorde qui sera la prochaine. Mais j'aimerais encore rappeler l'aspect concret de cette béatitude par des témoins qui sont un peu des géants, en rappelant par exemple Jean Lapointe qui a fondé une maison pour guérir les alcooliques et les drogués, Mère Teresa évidemment qui enseigne aux gens à mourir, qui est déjà pas si mal. Et ensuite, nous pouvons penser, pourquoi pas Lucien Bouchard, par exemple, je ne parle pas au niveau politique, il pourrait être dans le camp du oui, dans le camp du non, c'est pas ça, j'en parle comme d'un géant qui a vaincu la mort en lui-même, grâce à l'amour de ses enfants, à l'amour de sa femme, grâce à sa ténacité, et qui ressort de là comme un géant, et quelqu'un qui, ayant vécu sa propre mort, autrement dit, sa limite, a retrouvé en lui un amour qui maintenant ne pourra plus disparaître et un courage qui va être extraordinaire. Et on est chanceux au Québec d'avoir des témoins comme ça. Nous avons des gens extraordinaires autour de nous qui sont en train de rebâtir le Québec, la province, la religion, la foi. Et ce sont toujours des témoins, on appelle ça martyrs. Mais martyr en grec veut dire témoin. Ce sont des témoins de l'amour.
Quand vous parlez de Sœur Teresa qui enseigne aux gens à mourir, est-ce que en apprenant à vivre, on apprend à vivre dans le sens véritable, on n'apprend pas aussi à mourir?
Oui. La mort, c'est l'acte le plus important de notre vie. On apprend à être divin en étant de plus en plus humain. Mais comment faire pour devenir de plus en plus humain? C'est découvrir l'amour presque infini en humain de Dieu pour nous. Et cet acte-là, évidemment, c'est de le passer dans la vie divine complète, ce qui est l'acte de mourir. Alors, l'acte de mourir, évidemment, c'est l'acte le plus important de notre vie. Nous devrions le pratiquer chaque jour. Comment? Ben justement, en allant toujours de plus en plus vers la vie, en détruisant la mort, en détruisant nos blessures, en détruisant nos ruptures, et en refaisant toujours des guérisons. Et finalement, ce qui arrive, c'est qu'on arrive au fond de l'homme, parce qu'il y a quatre niveaux dans l'homme. Le premier, c'est la puissance de jouir. Nos fêtes sont en cellule quand on mange une bonne tarte, là. Ensuite, c'est la capacité d'endurer une douleur physique pour arriver à guérir une blessure physique. Ben, c'est déjà pas si mal. Ensuite, de passer à travers une blessure psychologique, c'est-à-dire de malheur dans une rupture de relation, et de retrouver cette relation par un pardon, et finalement de trouver une paix constante dans la joie, qui est le niveau le plus profond de l'homme. Parce que l'homme, c'est dans son âme une capacité infinie de joie.
Au sujet de la souffrance et des petites morts qui nous mènent à l'autre, vous écrivez que nos souffrances de toutes sortes sont justement des morts partielles, des petites morts qui nous préparent, nous façonnent pour cet acte décisif. Je pense que les petites morts, comme vous les appelez, on finit par les tolérer, sinon les accepter, mais l'autre, la mort décisive, comporte une telle finalité qu'elle ne paraît pas vraiment avoir de rapport avec les petites parce que la coupure n'est pas la même. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un autre ordre quand on parle de la mort définitive?
Dans la qualité des choses et des expériences, c'est du même ordre. Prenez par exemple un bébé, qui sa mère quitte le salon pour s'en aller dans la cuisine, il y a pense morte, lui, là, le bébé. Il pense qu'elle est partie pour toujours, il crie, il veut mourir.
C'est vrai.
Puis c'est une peine terrible qu'il endure ce bébé-là. Là. C'est aussi une peine aussi grande qu'un vieillard de 83 là, qui part là, pour la gloire. Alors, c'est les peines d'un bébé sont très grandes. Nous autres, on pense rien qu'un petit bébé, mais sa peine est immense. C'est pour ça qu'on y achète un petit hochet. Mais le petit hochet lui rappelle la présence. C'est comme un sacrement. Alors, on arrive à vivre les grandes morts par des petites, mais on arrive aussi par vivre des grandes joies par des petites joies, des petits plaisirs, une petite pomme, une petite banane. Ça aide. Ça nous conduit à plus grand.
Chers auditeurs, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Galilée. Nous traitons de la très grande question des béatitudes et cette semaine, nous terminons de traiter la béatitude des affligés. Monsieur Truchon, je pense que vous voulez nous parler un petit peu de l'amour qui est un grand remède à la mort.
Oui, l'amour, en fait, tue la mort. Qu'est-ce que c'est que la mort? Hein? Qu'est-ce que c'est que la mort? Qu'est-ce que c'est que la vie? La vie, c'est donner puis se donner. Alors, la vie, c'est comme un grand banquet, une grande fête. Alors, les tables sont servies, c'est plein. On donne, on mange, on se donne. La mort, ça serait qu'il n'y aurait plus rien sur la table, on a tout donné. Puis quand on a tout donné, là, qu'est-ce qui arrive? C'est que la présence de l'autre est inscrite en nous de telle sorte qu'on ne peut plus le quitter ni la quitter. Autrement dit, l'amour tue la mort, c'est que quand on meurt parce qu'on a tout donné, non seulement on meurt tranquille parce qu'on a tout donné, puis qu'on est détendu, puis qu'on n'a plus rien à retenir, mais c'est que, en fait, ayant appris à aimer, on a appris à vivre. Alors, la mort, c'est un passage vers la vie, mais ça se fait durant la vie, ça. Alors, quel est l'homme pour qui la mort serait le plus pénible? C'est l'homme qui n'aurait rien donné. Imagine, il est encore attaché à tout. Il y a encore tout. Il y a 3-4 tracteurs, 4-5 congélateurs dans la cave, 2-3 piscines. Il y a tout ça, là. Puis il est tout attaché à ça, là. Puis là, il faut qu'il meure, là. Imagine-toi, c'est dur. Alors, coupe ici, coupe là. Finalement, il est sur la table de chirurgie. Il se meurt. Il va mourir 50 fois. Mais s'il avait tout donné ça, là, au jour le jour, puis il donnait, puis il donnait, puis il donnait, là, mais quand il meurt, il n'y a plus rien. Ce gars-là, il n'y a rien. En fait, qu'est-ce qui reste à la place de ce gars-là? C'est tout ce qu'il a donné, et c'est-à-dire l'engendrement des êtres qui a fait aimer et qui a fait vivre. Et à ce moment-là, ce gars-là, il meurt très détendu, comme une chandelle qui n'a plus de cire, comme une lampe qui n'a plus d'huile, tout ça. En fait, il ne meurt pas. Il passe à un autre monde où là, il va encore bien plus vivre.
Autrement dit, ce qui nous reste, tout ce qui nous reste, c'est ce qu'on aura donné.
Oui, et ce qui nous empêche de nous mourir, puis ce qui nous fait souffrir à mourir, c'est ce qu'on n'a pas donné. Je ne parle pas des souffrances physiques, là, parce que il faut que chaque fibre de notre être soit offerte dans la mort. Autrement dit, notre corps nous lâche, là, cellule par cellule, là, puis des fois c'est long, là. Mais si on donne ça par amour, là, il s'installe en nous une progression de l'autre vie, de la joie, du spirituel. Et
ça suppose un grand détachement aussi.
Ben c'est la mort, c'est là qu'on reçoit le grand cours que la vie aurait dû nous donner si on ne se l'est pas donné ou si on ne l'a pas suivi. Mais il y en a pour qui la mort, c'est un couronnement. Il y a des personnes qu'on assiste à mourir qui sont au fond des leçons pour la vie.
Au cours des derniers épisodes, on a beaucoup parlé du point fondamental sur lequel repose la béatitude des affligés, c'est-à-dire le problème du mal. Vous affirmez donc que nous, chrétiens, nous savons que toute souffrance est vouée à la mort et que, vécue avec espérance, elle peut nous conduire à une gloire plus grande. Est-ce que vous pouvez m'expliquer de quelle mort et de quelle gloire il s'agit? Je vous repose la question au sujet de la gloire parce que ça me paraît bien difficile de percevoir la souffrance comme une source de gloire.
Oui. Là, il faut reprendre la définition que le Christ lui-même a comme donnée de la mort dans la parabole de l'enfant prodigue ou du Père miséricordieux, que j'espère peut-être on verra à l'émission un jour. Il s'agit de la mort définie théologiquement. Alors, on peut définir la mort médicalement, là. Bon, si quelqu'un meurt, il arrête de respirer, puis il est mort. Bon, il y a une clinique. Cliniquement, il est mort. Bon. Mais moi, je parle de la mort théologique, celle que le Christ a détruite, celle dont saint Paul parle, qui dit que la mort est détruite, qu'il n'y a plus de mort. C'est la mort théologique. Qu'est-ce que c'est que la mort théologique? C'est la rupture d'une relation amoureuse fondamentale. C'est tellement vrai, et c'est tellement une mort, que quelqu'un qui perd complètement un amour profond et fondamental, c'est que ça l'intéresse même plus de vivre. Au contraire, il a l'air d'un cadavre en vacances. Il aimerait mieux être mort. Alors même si la vie biologique continue, c'est comme si son âme était morte. C'est parce qu'elle n'a plus son sens. Alors c'est de la mort théologique dont on parle qui doit être détruite par le Christ, par l'amour, et qui aide à découvrir le passage physique d'une mort qui lui permet à la rencontre définitive de la vie, même physiquement. Alors, il s'agit de cette mort théologique là que le péché produit ou qu'une rupture peut produire par une blessure importante et mener la perte de confiance est totale. Et là, il y a une mort réelle. Et c'est la mort de l'enfant prodigue. Et c'est la mort que l'aîné va découvrir qui vivait bien plus qu'il pensait dans la parabole du Père miséricordieux qu'on verra probablement un jour. La gloire, elle, ben, elle va tout seule à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est que la gloire? La gloire de Dieu, c'est sa puissance de vie qui rayonne. Alors, ça devient visible tellement que c'est fort. Autrement dit, quand quelqu'un est bien amoureux, il est tellement transformé que physiquement, ça paraît. Alors, la gloire, c'est le rayonnement de la vie. Et la vie étant l'amour, la gloire, c'est le rayonnement de l'amour.
Alors, la souffrance, ce n'est pas le seul moyen de glorifier Dieu.
Au contraire, c'est pas la souffrance qui est le moyen vraiment de glorifier Dieu, c'est l'amour. Alors, c'est pas la souffrance qui glorifie Dieu. Dieu ne veut pas la souffrance. Elle devient un instrument parce que l'amoureux s'en sert comme témoignage. Autrement dit, si tu donnes une bine de 3 cents à ta tulcinée, c'est pas un cadeau terrible. Mais si tu as payé une bague bien chère, puis tu lui dis tu lui as laissé la peau des fesses, comme on dit, là, tu dis, c'est une bague, elle me coûte cher. Hein? Alors, quand on met un enfant au monde, si on mettait un enfant au monde comme un coucher de soleil, en se tournant de bord, là, ça serait pas pareil. Mais un enfant, ça coûte cher. C'est pour ça que moi, je souhaite que les femmes arrivent en politique, puis ils ne feraient jamais probablement la guerre, parce qu'ils savent ce que c'est qu'avoir un enfant. Alors, au fond, la vie vaut ce qu'elle coûte, et quand on meurt pour rien, ben on vit pour rien. Alors, vivre, au fond, c'est mourir pour quelque chose qui a de la valeur.
Monsieur Truchon, au sujet de l'aveugle né, il est dit qu'il n'y a pas de relation avec le péché, le sien ou celui de ses parents, mais une occasion de manifester la gloire de Dieu. Expliquez-moi de nouveau, s'il vous plaît, comment on peut trouver une occasion de glorifier Dieu dans la misère humaine, le handicap d'un enfant, par exemple.
Oui, ça c'est un peu l'histoire de ma vie sous un rapport capital. C'est que j'ai eu un enfant handicapé qui m'a fait redécouvrir un chemin vers Dieu, puis étant tellement content qu'on en a pris un autre en plus. Fait que là, il y a un prêtre qui m'avait dit, tu n'as pas assez d'un, franchement, c'est un peu fou ton affaire. Ben, moi, j'ai dit, j'aime autant d'en avoir un chaque bord. Alors, prenez Jean Ferrat, par exemple, qui a écrit la joie de vivre, là, je ne sais pas trop, là, que c'est beau la vie.
Que c'est beau la vie.
Ben, il a écrit ça, c'est en sortant de l'hôpital. C'est que quand tu manques à avoir un accident mortel, ou que tu penses tout donner, tu penses tout perdre, là. T'apprécies quasiment les mouches qui volent.
C'est la plus grande occasion d'apprécier la vie.
Absolument, parce qu'au fond, le bonheur, il vient d'une prise de conscience. Et malheureusement, beaucoup de plaisirs nous engourdissent, nous empêchent d'être conscients. Il y a des maris, des fois, dont moi aussi, j'arrive chez nous, des fois, je suis comme un meuble. Alors, au fond, l'autre se demande si je suis là. Des fois, des étudiants, ça arrive un peu d'une classe aussi, là, on se demande s'ils sont là, là. Alors, c'est certain que le bonheur, là, ça commence par une prise de conscience des valeurs qu'on a. Et il y en a qui... il y en a. On cherche souvent, et des fois toujours, ce qu'on n'a pas, au lieu de découvrir et d'approfondir ce qu'on a. Et au fond, c'est pour ça que moi, je dis que le premier item dans un budget, ça serait l'amour. Parce que ça te permet au moins d'apprécier les bines, puis d'apprécier la soupe, puis d'apprécier tout. Parce que si tu penses toujours à ce que tu n'as pas, tu ne vis pas.
Vous écrivez que toute souffrance, toute agonie et toute mort humaine est donc toujours portée et partagée par Jésus lui-même. C'est une affirmation qui me paraît bien rassurante, consolante même, mais est-ce qu'on peut être si certain de l'empathie du Christ envers nous?
Ben oui, à cause de la croix, là. C'est toujours la croix, là. Moi, le maître de ma vie, là, c'est une croix que le Christ est dessus, puis il est glorieux. Alors, il a souffert, il est mort, il a les yeux fermés. Mais par la prière, il rouvre les yeux, puis il nous parle, puis il est glorieux, puis il est en nous autres, puis il dit, fais-toi-en pas, j'ai tout vaincu ça. Alors, c'est la croix qui me signifie ça. C'est l'histoire de Jésus qui est mort pour nous. Et ce sont les fruits que l'Esprit-Saint a produits à partir de sa mort chez ses témoins. Et ça s'est rendu jusqu'à nous autres, ça. Les Romains sont tous morts au niveau de l'Empire chrétien. Et finalement, Rome est installée sur les martyrs. Puis le pape règne là-dessus, là, mais il règne au fond sur les martyrs. Alors, ça s'est rendu jusqu'à nous aujourd'hui. Donc, avec l'aveugle-né, ce qui arrive, c'est qu'imaginez un aveugle là, qui a jamais vu des arbres. Il n'a jamais vu ça, des arbres. Il n'a jamais vu des fleurs. Il n'a jamais vu personne. Puis imaginez-vous, là, qu'il commence à voir. Mais c'est terrible, sa vie. Il ne pourra plus dormir pendant 2-3 jours, là, ce gars-là. Alors, au fond, la rencontre du Christ, c'est ça que ça fait.
Ça nous transforme.
Ben, ça nous fait voir.
On a donc vu, au cours des dernières semaines, concernant la troisième béatitude, celle des affligés, qu'elle repose sur le problème du mal. Bon. On a vu, je pense, que l'analyse ne répondra jamais à toutes les questions et qu'en outre, avec le problème du mal, on se heurte finalement à un mur. Mais je me demande, M. Truchon, est-ce que ce n'est pas ça, la foi? Est-ce que ça ne nous permet pas d'affirmer que l'exégèse, les raisonnements humains, toute la bonne volonté au monde ne peuvent pas tout expliquer? Est-ce qu'au fond, ce n'est pas rassurant, même si ça peut paraître contradictoire, de constater que certains messages de l'Évangile sont d'un autre ordre, qu'ils doivent tout simplement être acceptés en bloc parce qu'ils font appel à une connaissance supérieure qui nous échappe?
Oui, ça, c'est une étape de la foi. Tous les saints, là, dans leur vie, ont vécu des étapes presque d'incroyance. Et d'ailleurs, dans nous autres, là, il y a toujours des zones d'incroyance. Dans chacun de nous autres qui écoutons l'émission ou qui enseignons ou qui étudions, nous avons toujours des zones d'incroyance. Alors, qu'est-ce qui nous fait passer à l'incroyance? Qu'est-ce qui nous fait passer à la foi? Qu'est-ce qui nous fait accéder à ce niveau supérieur qui nous dépasse, qui n'est pas contre la raison, mais qui est au-delà de la raison? C'est encore les témoins. Alors, je pense, là, par exemple, à l'abbé Pierre, là, qui un jour s'est converti en étudiant Saint-François, qui s'est réconcilié avec tout, même avec les loups, là. Alors, parce que la foi nous fait redécouvrir tout ce que la science nous promettait, mais elle nous l'en fait expérimenter dans un dépassement extraordinaire. Alors, il y a une relation entre la science et la foi. L'un aide l'autre, et l'un dépasse l'autre. Croire, c'est plus que savoir. Mais savoir, ça nous montre aussi ce qu'on ne sait pas. Alors, la foi nous fait découvrir ce qu'on ne sait pas, et elle nous fait tout le temps voir ce qu'on ne sait pas encore, mais ce qu'on se connaîtra un jour. Alors, la foi, c'est la libération de l'intelligence qui se soumet au mystère. Les grands savants, en fait, c'est des gens qui sont humbles, c'est-à-dire qui sont toujours attentifs à ce qui est réel, qui se fient jamais à leur imaginaire, mais qui l'utilisent tout le temps pour le dépasser, leur vision, par des théories, par des artifices qui leur servent. Alors, la foi et la science, il faut réconcilier ça. Par exemple, Françoise Dolto, qui arrive à la même conclusion que l'exégèse que j'ai faite, moi, de la béatitude des Pères miséricordieux, qui arrive à ça par la psychanalyse, je trouve ça extraordinaire. J'ai aimé ça, lire ça dans son livre « Jésus et le désir », là, où elle nous montre que, par notre guérison du problème d'Édipe, on n'est même plus capable d'être infidèle. C'est quand tu es heureux, là, le malheur t'atteint plus. Alors, quand t'es heureux, t'essayes pas de blesser un autre, tu feras attention pour pas le blesser. Ce qui est, en fait, le péché, c'est de faire de la peine à un autre. Alors, la foi nous fait découvrir l'amour réel, qui est d'abord une espérance.
Monsieur Truchon, vous écrivez quelque chose que je trouve très intéressant, et je cite, « Les affligés sont des victimes d'eux-mêmes, de leurs limites, de leurs déviations. Ils appellent un dépassement et implorent un pardon s'ils sont responsables. Dieu les entend, Dieu les entendra. Tout finira. Seul le bonheur promis par Dieu subsistera. » Pour le bénéfice des auditeurs, je pense que c'est important de terminer sur une note positive et à plus forte raison quand on parle de la béatitude des affligés. Je pense que rien n'est plus rassurant que cette certitude qu'après tous les tourments, les souffrances, les déceptions, comme vous le dites, seul le bonheur promis par Dieu subsistera.
Oui, prenons les deux psaumes, 35 et 50. Ou 34, si on veut, selon la Vulgate, pour 35 et 50. Au fond, là, Dieu, là, c'est lui qui a parti la patente, c'est-à-dire tout ce qui existe, là, là. C'est pas moi qui a parti ça, c'est pas un autre qui a parti ça. C'est Dieu qui a parti ça, cette affaire-là. Ce monde-là existe, il a une histoire, il est dans un processus. Il s'agit de voir de toute l'évolution d'abord des êtres créés, qu'on appelle la biologie avec tous les chromosomes, tout ça. Il s'agit de voir l'évolution technique dans notre monde. On est dans une évolution. On est dans un monde qui évolue, c'est-à-dire qui avance. Pas toujours au plan humain dans certains domaines ou dans certaines régions, mais momentanément. Alors, au fond, Dieu a parti tout ça, là. Si Dieu a parti tout ça, là, parce que Dieu est tout-puissant, c'est le premier article du credo, Dieu est tout-puissant, il a tout parti ça, cette affaire-là. Alors, c'est parce qu'il va le réussir. C'est parce que Dieu est le bonheur, et Dieu, il veut le bonheur, il veut que tout ça réussisse. Parce que le bonheur, au fond, c'est l'accomplissement de toutes nos puissances. Alors, si Dieu a parti tout ça, c'est parce qu'il va le réussir. C'est lui le grand responsable du monde, il va le réussir, et le Christ l'a déjà réussi. Et c'est ça la foi chrétienne, c'est que le Christ a déjà réussi, il est l'alpha et l'oméga de l'univers. Alors, moi, par exemple, comme personne individuelle, Raymond Truchon, il m'a fait exister à partir de 1932, le 7 septembre. Il va me réussir, et c'est ça qui me rend heureux, c'est qu'il va me réussir. Il est tout puissant, il est intelligent, donc j'ai du bon sens. Il n'a pas fait une cochonnerie, il a fait quelque chose qu'il aimait. Lui, il n'est pas obligé de faire ce qu'il n'aime pas. Alors, le bonheur de Dieu, c'est ce qui est le plus important dans notre vie, parce qu'un jour, on l'aura. Et la Bible, c'est un livre qui a un couvert à gauche quand ça rouvre, si on est en français. Si on est en hébreu, c'est l'inverse. Alors, le premier, c'est Dieu qui crée le monde. Et le dernier, c'est Dieu qui achève le monde. Puis entre les deux, on a de la misère. Mais le Christ a déjà vaincu cette misère. Alors, l'Apocalypse, c'est le couronnement de notre histoire.
Ce que vous dites, c'est que la foi en Jésus, en le Christ, nous donne toutes les garanties.
La foi en Dieu nous donne le salut, c'est-à-dire la certitude d'être réussi et de nous réussir, et que nous avons à développer ce succès que nous devenons grâce à Dieu, et à guérir les blessures et à enlever les obstacles qui s'y opposent, au plan personnel, au plan conjugal, au plan familial, au plan national, qu'il y ait séparation, qu'il n'y ait pas séparation, au plan international, tout ça est dans les mains de Dieu. Et le croyant, lui, l'avantage qu'il a, c'est qu'il le sait et qu'il s'y prépare. Tandis que l'autre,
croyant n'est que l'instrument de Dieu.
Ben, c'est-à-dire que nous sommes tous collaborateurs de Dieu, co-créateurs, co-révélateurs et co-rédempteurs. Dieu, pour nous, est un créateur, un père, un ami, un époux.